Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
8h, c'est Isabelle Choquet qui vous dit tout, qui vous informe. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, les soignants à l'honneur.
Cette année, les festivités du 14 juillet, c'est pour eux, pour leur dire merci. Ils ont donné beaucoup, ça a laissé des traces. Témoignage dans un instant. À suivre également le bac 2020, une cuvée aigre douce, beaucoup d'admis, mais pas assez de place en études supérieures. Et puis la reprise en fanfare du PSG, vainqueur du Havre 9-0. Et enfin, il y avait du public. On les a applaudis, on a composé des chansons pour eux. Désormais, c'est la nation qui va rendre hommage aux soignants à l'occasion des festivités du 14 juillet. Les services de santé des armées seront présents demain pour le défilé à huis clos, place de la Concorde. Et dès aujourd'hui, une soirée de remerciements est organisée au Grand Palais. 800 personnes sont conviées, venues de toute la France. Parmi elles, Valérie Denis. Elle travaille depuis 14 ans à l'hôpital de Mulhouse. Yannick Holland l'a rencontrée pour RTL.
Ben là, nous sommes dans le local des cellules réfrigérées où nous avons nos défunts, nos patients.
Valérie a une mission particulière à l'hôpital de Mulhouse. Elle prend soin du corps des défunts pour les présenter aux familles.
Nous faisons une petite toilette, coiffage, comme on aimerait voir nos personnes à nous de nos familles. Quoi.
Autant de gestes d'humanité qu'il a fallu supprimer quand la déferlante du coronavirus s'est abattue sur l'hôpital. Les morts arrivaient toujours plus nombreux dans des housses hermétiques pour éviter toute contamination.
Nous n'avions plus le droit de nous occuper de nos patients qui venaient où c'est. Ils allaient en cercueil directement. Et famille, c'est pas évident hein, de dire le dernier au revoir à leurs proches, de plus les voir.
Comment on fait pour tenir humainement?
C'est pas facile. On a eu des moments, bon, larmes vous m'ont monté. On a eu des moments où on ne pouvait plus dormir correctement. On a eu les psychologues qui venaient nous visiter aussi au sein de l'hôpital. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait l'impression d'être des automates et on n'arrivait plus à faire la part des choses.
Pour ne pas craquer, Valérie et ses collègues ont décidé de poser une rose sur chacune des victimes de l'épidémie.
Petite touche de couleur quand même et que ça reste digne.
Pour que les morts de l'hôpital de Mulhouse ne soient pas de simples numéros.
Reportage RTL de Yannick Holland dans l'Est. La reconnaissance, ça passe aussi par une revalorisation des salaires. Cet après-midi, un accord doit être signé enfin à l'issue du Ségur de la Santé. Il prévoit notamment une augmentation de 183 euros net pour les agents hospitaliers. En ce qui concerne les médecins, le projet d'accord prévoit une enveloppe de 450 millions d'euros.
Voilà des soignants qui nous ont permis de surmonter la première vague épidémique. Il s'agit maintenant, Isabelle, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas une deuxième.
Et en ce moment, on voit fleurir des rassemblements pas très encadrés. Concert électro samedi soir à Nice avec un public dense massé sur la promenade des Anglais. Une rave partie sauvage avec près de 2000 participants dans une forêt près d'Arcachon. Une autre rave dans la Nièvre. Et puis d'une manière générale, c'est le temps des vacances et on constate un certain relâchement. Reportage RTL de Nicolas Bobby à Damgans près de Vannes dans le Morbihan.
En bateau, on ne porte pas le masque, mais à terre, le directeur de l'école de voile, Yann Tronvaux, est aux petits soins pour ses stagiaires.
Bon, on fait des rappels à l'ordre tous les quarts d'heure pour que les gens respectent cette distanciation, parce que c'est difficile. L'idée, c'est surtout de continuer notre activité, de ne pas avoir un autre confinement.
Au camping de la plage, Yann Bressrofer fait appel au bon sens de ses clients.
Lorsque dans le bloc sanitaire, toutes les cabines sont occupées, on attend à l'extérieur. On a évidemment annulé tout ce qui était tournoi de pétanque, soirée commune, regroupement d'enfants, des choses comme ça.
Car à Damgans, comme dans de nombreuses stations balnéaires, il y a du relâchement.
À Paris, on respectait un peu les gestes barrières, mais là, on a vraiment l'impression d'être en vacances et que le corona n'existe plus.
Il n'y a eu aucun cas ici.
On a l'impression qu'il n'y a plus du tout de virus, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça, effectivement, on ne respecte plus les masques et tout ça.
Une situation que regrette ce jeune Damganais.
Dans les restaurants, la distanciation est parfois bien respectée, dans les bars un peu moins, surtout le soir.
Des mesures draconiennes ne sont pas envisagées. Elles risqueraient de faire fuir les touristes et de tuer économiquement la saison.
Nicolas Bobby dans le Morbihan pour RTL. Et face à ce relâchement, le gouvernement envisage de développer le port du masque. C'est à l'étude, a confirmé Jean Castex lors de son déplacement en Guyane hier, mais cela concernerait en priorité les lieux clos.
Isabelle, parlons maintenant du bac, car c'est une cuvée historique, près de 96% de reçus.
Un bac en mode Covid, sans épreuve finale, rien que du contrôle continu et des jurys plutôt bienveillants. Résultat, des dizaines de milliers d'étudiants en plus cette année. Et du coup, certains peinent à trouver leur place. Samia Belbachir. Oui, comme Eysan qui a décroché un bac STL, spécialité physique et chimie de laboratoire. Elle est sur liste d'attente malgré 20 vœux émis sur Parcoursup.
Je trouve que le taux de réussite est trop élevé pour un bac. Moi, quand je vois des gens de ma classe qui étaient à 6 de moyenne générale, sans mentir, 7 de moyenne générale, et qui se retrouvent à avoir le bac avec 19 en maths, des notes excellentes, je trouve que le bac il a été donné cette année. Avoir le bac pour ne pas avoir d'école, ça sert à rien.
Malik, lui, fait partie des chanceux dont le premier choix a été validé sans même être passé par une liste d'attente.
Je me suis inscrit à la fac d'histoire. Je sais pas trop qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cette chance-là, mais je l'ai eu.
Et comme si l'entrée à la fac n'était pas déjà assez stressante, se posent désormais toutes les questions liées à la crise sanitaire.
A priori, je devrais rentrer vers le 14 septembre. Mais si jamais il y a un reconfinement qui tombe fin août, à mon avis, ça va être compliqué. On va peut-être faire une rentrée à distance ou juste voir et prier que ça se passe bien, quoi.
De quoi rendre cet été 2020 encore plus stressant pour les jeunes bacheliers.
Reportage RTL, Samia Belbachir. Doit-on parler de bac au rabais ? Y aura-t-il de la place pour tous ? Interrogation multiple pour notre invité dans 10 minutes. Maintenant, ce sera le président de l'Université de Reims qui sera connecté.
Et invité d'RTL ce matin, Bruno Le Maire annonce un plan de soutien massif, immédiat et efficace pour l'emploi des jeunes. Il sera dévoilé cette semaine. Nous ne laisserons pas tomber les jeunes Français qui rentrent sur le marché du travail. Voilà ce que dit le ministre de l'Économie. Quand il a pris ses fonctions, Éric Dupond-Moretti a affirmé qu'il serait le ministre de l'antiracisme et des droits de l'homme. Aujourd'hui, les avocats et les familles de djihadistes le prennent au mot. Ils espèrent que le garde des Sceaux va se saisir rapidement du dossier des Français retenus en Syrie. Émilie Beaujard.
Oui, Éric Dupond-Moretti s'est plusieurs fois déclaré pour le rapatriement des djihadistes, et notamment en février 2019.
Ce sont des citoyens français, qu'on le veuille ou non. Et bien sûr qu'on ne peut pas fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. En réalité, il faut les rapatrier, surtout quand ils encourent la peine de mort, et les juger en France.
Les rapatrier et les juger en France, c'est aussi la position que défend depuis le début l'avocate Marie Dauzé. Elle représente une quarantaine de familles de djihadistes.
Ça suffit. On ne va pas laisser ces enfants, ces femmes, mourir les uns après les autres. Il est temps que ça se fasse. Ça va finir par être trop tard et ce sera la responsabilité de tout le monde. Et je suppose qu'il ne va pas supporter que ce soit la sienne. En tout cas, je l'espère.
Signe peut-être d'une ouverture dans ce dossier, Marie Dauzé a été reçue deux fois à l'Élysée depuis le déconfinement. En parallèle, les appels au rapatriement se multiplient, notamment du côté des victimes des attentats du 13 novembre. Georges Saline a perdu sa fille au Bataclan.
La justice n'est pas rendue et la justice n'est pas appliquée. Et personne ne s'assure que ces personnes qui sont potentiellement dangereuses ne disparaissent pas dans la nature. D'ailleurs, c'est arrivé, il y a eu des évasions. Donc, c'est à la fois une question de justice et une question de sécurité. Quant aux enfants, alors là, ce sont des enfants en danger dont il faut s'occuper.
Les avocats des familles comptent maintenant sur la force de conviction d'Éric Dupond-Moretti pour plaider en leur faveur auprès du président de la République.
Émilie Beaujard. À Paris, des fêtards dénoncent des violences policières. Les policiers sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi pour un tapage nocturne dans le 19e arrondissement. Intervention musclée face à une quarantaine de jeunes très alcoolisés. 7 personnes ont été placées en garde à vue pour outrage et violence contre les policiers. Mais elles dénoncent elles aussi des violences. Et elles ont décidé de porter plainte dès ce matin devant la police des polices. Information de nos confrères du Parisien.
Et puis le football, Isabelle, pour une reprise, c'est un festival.
Une victoire du PSG 9-0 hier soir face au Havre, club de Ligue 2. Début de signer Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Mais au-delà du score phénoménal, ce qu'on retiendra, c'est le retour du public pour la première fois en France et en Europe. 5000 spectateurs dans les tribunes du Havre. Heureux, tout simplement.
Et revoir un petit stade comme ça de 25 000 places avec 5 000, mais ça fait du bien quand même.
Ouais, ça fait du bien, ouais. On est abonné toute l'année, même si on n'est que 5 000 dans le stade, mais bon, ça fait quand même du bien.
Les mesures ne vous ont pas gêné?
Déjà, c'est normal, même si, bon, effectivement, il y a des règles strictes. On est content de, je pense, tous de revenir dans les salles.
Bon, mais faut suivre, faut faire attention quand même. Hein. C'est pas fini, donc le moindre des choses, c'est quand même de chacun prenne un peu ses précautions.
Les premiers spectateurs de foot post-confinement, micro RTL de Frédéric Veil.
Merci Isabelle Choquet, RTL.fr, l'actualité quand vous le souhaitez. Isabelle revient vous informer tout à l'heure à 9h. Restez bien là, il est à 8h09 dans un instant positif justement sur ces entreprises qui se réinventent, qui ont su rebondir pendant et après le confinement. Un exemple avec Armel Lévy à suivre dans une boulangerie. À tout de suite.
Stéphane Carpentier,
RTL Matin.
8h11, bon réveil à vous tous dans la série Soyons positifs. Après les mois difficiles que nous venons de traverser, chaque matin, nous nous attacherons à mettre en avant des entreprises qui ont su rebondir pendant et après le confinement. L'exemple des boulangeries Victor et compagnie symbolise ce rebond. Armel Lévy, c'est une société créée par Christophe et Nathalie Girardet dans la région lyonnaise. Racontez-nous depuis le départ.
Alors, on a une baguette.
Dans son fournil, Christophe se souvient encore du choc le 14 mars quand il a appris le début du confinement.
À partir du site de Crapon, on livre des restaurants, plein de copains qui nous ont dit « bah stop, c'est fini, on travaille plus ». Donc ça a été un peu le coup de massue sur la tête et on a essayé de trouver rapidement des solutions. Qu'est-ce qu'on fait ?
Il a tout de suite créé son site de vente en ligne pour de la livraison à domicile.
En 48 heures, on a créé un site de toutes pièces. On a livré du pain, on a livré la viennoiserie. Puis après, on s'est largement diversifié. Je suis associé avec des agriculteurs et tous ensemble, on s'appelle les Robins des Champs. C'était une petite boutade, mais Robin des Bois, lui, sauvait les pauvres. Nous, Robin des Champs, on sauve les paysans. Du coup, on a livré des œufs, on a livré du beurre, des fruits et légumes, des poireaux, des carottes, des radis.
Mais aujourd'hui, les habitudes ont encore changé. Christophe Girardet va transformer son site de vente en ligne en site de précommande Click and Collect.
Les gens, ils sont pas trop prêts. Ils ont tellement fait la queue dans différents commerces. Ils sont pas trop prêts à refaire la queue post-Covid. Donc, ils viendront chercher leur commande. Elle sera prête, elle sera payée. Donc, l'échange, finalement, il sera assez rapide. Avec une caisse dédiée, on aura vraiment une caisse spécifique pour venir récupérer sa commande en boutique.
Et son rayon des producteurs locaux, farine, lentilles, huile de colza, rencontre un énorme succès.
Après cette crise, en fait, ils ont besoin que les produits qu'ils achètent, ça ait du sens.
Et sur sa lancée, une cinquième boulangerie Victor et compagnie va ouvrir ses portes le 1er septembre à Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu.
Voilà, mon entreprise se réinvente, c'est positif, avec Armel Lévy, c'est tous les matins de la semaine sur RTL après 8h.
RTL. Bonne matinée et bel été sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Et tous les lundis de l'été, le service étranger de RTL nous offre un retour vers le passé, un plongeon dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, ouvrage passionnant sur les écrits envoyés par les ambassadeurs français, envoyés à Paris, de partout dans le monde. Ce matin, Brice Dugénie, vous revenez sur un pays, l'Irak, et sur un homme, Saddam Hussein, l'ami de la France.
RTL.
Archives secrètes du Quai d'Orsay.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler du 1er décembre 1974. Ce jour-là, Jacques Chirac, Premier ministre, est à Bagdad, en Irak, pour mettre sur pied un accord commercial avec le nouvel homme fort du pays, Saddam Hussein. Léon Zitrone l'annonce sur la première chaîne de l'ORTF.
Monsieur Chirac, Premier ministre, est à Bagdad, Irak, où il est arrivé hier. Ces entretiens aboutiront sans doute, dit-on du côté irakien, à de nouveaux accords pour assurer à la France un approvisionnement constant en pétrole brut d'Irak. Voici la correspondance que nous adresse Joseph Poli, notre envoyé spécial.
Jacques Chirac n'est pas venu à Bagdad pour faire du tourisme.
Jacques Chirac n'est pas en Irak pour faire du tourisme, mais bien des affaires, comme le détaille Alain Cancès sur RTL.
15 milliards de francs lourds, c'est une première estimation du montant des contrats que la France vient de signer avec l'Irak. La France fait ainsi la preuve que sa politique internationale, sa politique de dialogue avec le monde arabe, peut aussi être tout simplement payante.
Saddam Hussein n'est alors que le vice-président du pays, mais la France comprend que c'est lui l'homme fort du nouvel Irak. Paris décide donc de miser sur cet homme de 37 ans pour mettre un pied au Moyen-Orient, riche en pétrole et en opportunités commerciales. Quelques mois avant ce voyage, en janvier 1974, dans une dépêche secrète envoyée au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de France en Irak, Pierre Serle, décrit le nouvel homme fort de Bagdad.
Le personnage est révélateur des ambitions et des paradoxes d'un nouvel Irak, soucieux d'efficacité et de modernisme. On le dit pur et dur, orgueilleux, mais soucieux d'apprendre. L'homme fort du régime s'est bien gardé jusqu'ici de monopoliser à son profit le pouvoir. S'il n'entend pas pour l'instant être le nouveau calife de Bagdad, en revanche, il est résolu à donner la priorité à une certaine idée de l'Irak.
L'Irak a du pétrole, beaucoup de pétrole, et la France en a besoin. De son côté, Bagdad veut se moderniser pour renforcer ses armées. L'Irak souhaite acheter des armes à la France. Et Saddam Hussein veut également la construction d'une centrale nucléaire dans son pays, ce que Jacques Chirac va lui vendre en 1975.
Eh bien, l'accord de coopération nucléaire est au point, nous l'avons même complètement arrêté. Vous savez que conformément à la procédure communautaire, nous devons le transmettre à la communauté et ce n'est qu'au vu des observations éventuelles de la communauté que cet accord sera signé dans un mois.
La relation franco-irakienne se poursuit. La France apporte son soutien, même militaire, à Saddam Hussein, dont les ressources pétrolières ne cessent de croître. Dans un nouveau message de mai 1980, Pierre Rocalve, nouvel ambassadeur à Bagdad, décrit l'évolution d'un Saddam Hussein populaire, fédérateur, mais les doutes commencent à apparaître.
Saddam Hussein se présente comme le fils du peuple. C'est l'image qu'il entend donner. Il a acquis de l'assurance et un certain charisme, créant un personnage qui allie le sourire de Kennedy, le bagou et le cigare de Fidel Castro, la coiffure de Yasser Arafat et la grandiloquence d'un empereur mésopotamien. Il s'est taillé une popularité comme on n'en avait pas connu depuis longtemps en Irak. Mais la présence aux côtés de Saddam Hussein d'une impressionnante garde prétorienne en tenue de parachutiste qui, la mitraillette à la main, ne le quitte pas d'une semelle, indique que l'image idyllique d'un président aimé de tous doit être tempérée.
Premier bémol diplomatique, mais la France soutiendra militairement et financièrement le régime de Saddam Hussein jusqu'au début des années 90 et la première guerre du Golfe. Saddam Hussein devient peu à peu aux yeux du monde le dictateur qui écrase les opposants, s'engage dans des guerres contre l'Iran puis le Koweït et s'assoit sur la démocratie.
100% de participation, 100% de oui. Saddam Hussein est donc réélu pour 7 ans à la tête de l'Irak. Il améliore son score de la fois précédente, 99,96% des suffrages.
Les relations diplomatiques entre la France et Saddam Hussein se tendent, se dégradent jusqu'en 2002. Jacques Chirac, devenu président de la République, refuse d'engager la France dans une intervention militaire en Irak, mais il n'épargne pas celui qu'il appelait 30 ans plus tôt son ami personnel.
Une fois de plus, l'Irak est dans l'actualité. Une fois de plus, c'est la population irakienne qui souffre. Une fois de plus, la responsabilité incombe clairement au président irakien.
La France n'a pas d'autre choix que de lâcher définitivement Saddam Hussein, qui meurt pendu le 30 décembre 2006.
Les archives secrètes du Quai d'Orsay
avec les éditions Iconoclast.
C'est passionnant, c'est tous les lundis matins sur RTL. Merci Brice du génie du service étranger de votre antenne préférée. Vous restez bien là, il est 8h18, très bon réveil à vous tous. On va essayer de comprendre ce matin comment on va gérer tous ces futurs bacheliers. Ils sont plus nombreux que d'habitude, vous le savez, en raison de ce cru 2020. Et c'est le président de l'université de Reims, Champagne-Ardenne, qui est connecté et qui sera en direct avec nous juste après ceci. À tout de suite.